France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Près de 300 000 élèves n'iront pas à l'école aujourd'hui en France. Une mesure de précaution face au coronavirus dans les zones les plus touchées, à savoir les départements du Haut-Rhin et de l'Oise, ainsi que la ville d'Ajaccio en Haute-Corse. Alors pour le moment, le stade 3 n'est pas enclenché en France, mais le bilan ne cesse de s'alourdir. Hier soir, plus de 1100 personnes étaient contaminées, 19 en sont mortes. Le ministère de la Santé l'annonçait par ailleurs, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits en France, tous sauf les manifestations, les concours et les déplacements en transport en commun. Pendant ce temps, une partie de l'Italie se barricade, cela représente 16 millions de personnes. Plusieurs régions du nord, parmi lesquelles la Lombardie, sont placées en quarantaine, pas de déplacement donc jusqu'au 3 avril au plus tôt. L'Italie est désormais le pays le plus touché au monde après la Chine. En 24 heures, 133 nouveaux décès ont été recensés dans le pays. Notons que la suspension des visites familiales dans les prisons en Italie a déclenché des mutineries hier soir. Soulèvement notamment particulièrement violent à Modène. Et puis en Allemagne par ailleurs, le ministre de la Santé a appelé hier les organisateurs d'événements publics importants à les annuler. Une partie du monde s'arrête donc et cela freine la croissance économique. La consommation de pétrole s'effondre et les contrats qui vont avec. Moins 20% de contrats hier après la décision de l'Arabie Saoudite de baisser ses prix de vente. Une guerre des prix débute donc alors que Riyad et Moscou ne sont pas parvenus la semaine dernière à se mettre d'accord sur un nouvel accord d'encadrement de la production de pétrole. Et puis notez que le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu ce lundi à Bruxelles. Il doit y évoquer le conflit syrien et les questions migratoires. Les représentants de l'Union européenne ont déjà prévenu que la décision de la Turquie de ne plus retenir les réfugiés sur son territoire était inacceptable. Des centaines de migrants sont toujours coincés entre la Turquie et la Grèce. Cette nuit, le gouvernement allemand a annoncé qu'une coalition de pays volontaires de l'Union européenne envisageait de prendre à sa charge jusqu'à 1500 enfants migrants qui sont actuellement bloqués en Grèce.
Ce n'est pas un chat comme les autres. Doué de parole et d'un esprit critique décapant dans l'Algérie du début du XXe siècle, le chat du rabbin, adapté de la BD de Johann Sfar sur France Culture. Une fable colorée, truculente, qui nous fait découvrir la culture juive séfarade à travers une pléiade de personnages aussi attachants que farfelus.
Ça me permet de faire connaissance avec l'âne. Il s'appelle Sfar.
Bah oui, Sfar, c'est arabe.
Mais n'importe quoi, mais Sfar, c'était un rabbin.
On le répète un peu pour voir.
Rabbin.
C'était un soufi.
Ah, tu l'as dit, rabbin.
Entrez dans la danse, le chat du rabbin, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr. Chaque jour à 19h, la dispute. Arnaud Laporte.
Spectacle vivant, cinéma, musique, littérature et art plastique, la dispute passe tous les arts en revue, avec les meilleures critiques dans chaque domaine. Et vous pouvez aussi profiter du live tweet pour commenter en direct notre émission. Nous lisons chaque soir les messages les plus pertinents à l'antenne.
La dispute, du lundi au vendredi à 19h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture. Nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres et aujourd'hui, je reçois Hugues Fontaine pour son beau livre consacré à Arthur Rimbaud, photographe. C'est édité chez Textuel. Corinne Amar à la coordination, Vincent Amar à la réalisation, ce matin à la prise de son, Pascal Baudin. Le Réveil culturel, c'est parti.
Le Réveil culturel, lundi, livre.
Bonjour Hugues Fontaine.
Bonjour.
Vous êtes photographe et réalisateur. Vous avez beaucoup travaillé sur les voyageurs photographes de la Corne de l'Afrique à la fin du 19e siècle. Vous avez d'ailleurs à cet effet publié un beau livre de photos sur la construction du chemin de fer Djibouti Addis Abeba, un train en Afrique. Ça a été publié chez Shama Books. Et puis un autre livre consacré au roi Ménélique d'Éthiopie, récemment publié chez Amarna. Et vous avez été le commissaire de l'exposition Rimbaud, photographe, donc, qui s'est tenue l'année dernière au musée Arthur Rimbaud de Charleville-Mézières. et d'une autre exposition sur le même thème, ou presque, Rimbaud soleillé, c'est une saison en Afrique qui actuellement anime au Carré d'Art jusqu'au 25 avril. Mais ce matin, nous allons parler de votre livre consacré à Rimbaud, photographe. Quand on associe le nom du grand poète à la photo, ce qui s'imprime tout de suite dans notre tête, c'est plutôt la fameuse photo, le seul portrait du poète, l'ange démon de 17 ans, Ignace Rebel, yeux clairs et mélancoliques, montant dédain, bref, très rock, bref, Arthur Rimbaud tel qu'il nous a été révélé par la photographie d'Étienne Carjat prise en 1871. Mais Rimbaud photographe, c'est une autre histoire, une facette méconnue de Rimbaud en Éthiopie, méconnue car non aboutie. Parce qu'aujourd'hui, on a combien de clichés d'Arthur Rimbaud? C'est entre 7 et 10, hein?
Oui, c'est entre 7 et 10. Il y en a 7 bien connus, 6 sont au musée de Charleville-Mézières et un à la Bibliothèque nationale de France, qui est son autoportrait dit aux bras croisés dans un jardin de bananes. L'expression est de Rimbaud lui-même, puisque ces 3 autoportraits, il les envoie à sa mère et à sa sœur Isabelle le 6 mai 1883. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il fait une erreur. Il dit « je vous envoie deux photos ». En fait, il va en glisser 3 dans son enveloppe. C'est une sorte de lapsus assez curieux.
Oui, il est méconnaissable, on peut le dire. C'est un vieil homme. On a du mal à retrouver le Rimbaud, le Rimbaud qu'on a connu, c'est-à-dire à travers la pose d'Étienne Carjat.
Oui, un vieil homme, vous exagérez un peu, il a vieilli. Il le dit lui-même. Quand il envoie ses images à sa sœur et à sa mère, il dit « c'est pour vous rappeler ma figure » et vous donner une idée des paysages d'ici. Il écrit, et on sait qu'il faut faire très attention à ce qu'écrit Rimbaud, les mots ont un poids énorme. Il dit pour vous rappeler, il ne dit pas pour vous montrer. Et de fait, on peut se demander comment Isabelle et Vitalie, sa mère, ont pu recevoir ces photos, parce qu'effectivement, son visage, on a du mal à le voir. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est probablement ses premiers essais photographiques, ses 3 autoportraits. Pourquoi pas faire des essais en se photographiant soi-même? Et il ne maîtrise pas encore très bien le processus, et donc les épreuves sont mal lavées. Il le dit lui-même aussi dans cette lettre. Et donc les nitrates d'argent ne sont pas suffisamment lavés, fixés, et l'image blanchit. Et donc sur ces 3 autoportraits de Rimbaud, ce qui est quand même une chose extraordinaire d'imaginer qu'en 83, il se photographie, eh bien effectivement, son visage, on ne le voit pas, on ne le lit pas, contrairement, comme vous venez de le dire, au fameux portrait de Carjat quand il a 17 ans.
Alors ce qu'il nous dit Rimbaud à travers, bien sûr, sa correspondance, c'est que dès son premier séjour en Éthiopie, c'est en 1880, il souhaite devenir photographe, hein, parce qu'on est dans une époque où il a vraiment cessé d'écrire, il ne veut plus écrire, il se lance dans d'autres aventures, et parmi ces aventures, il y a la photo qui l'inspire, la photographie.
Absolument. En fait, il tourne le dos à la littérature et ce qui l'intéresse à ce moment-là, ce sont les sciences, les techniques. Verlaine l'a appelé le philomathe, celui qui aime les sciences par-dessus tout. Il arrive en août 1880 à Aden. C'est une histoire assez incroyable, hein, parce qu'il cabote sur tous les ports de la mer Rouge. Et en fait, il débarque à Aden épuisé, sans plus d'argent, malade aussi, semble-t-il. Et il est embauché par Dubar, qui est l'adjoint de Bardet, qui tient une maison de commerce, une maison de café. Et donc, Rimbaud se retrouve à la tête d'un petit harem de femmes indiennes qui trient le café. Mais Aden, c'est un endroit épouvantable, il fait une chaleur terrible. Et il a envie que d'une chose, c'est de passer de l'autre côté du golfe d'Aden, de l'autre côté de la mer Rouge, et d'aller vers cette Éthiopie qu'on appelle à l'époque l'Abyssinie, et qui est une espèce d'Eldorado, une Suisse africaine. Et il y arrive assez vite, et donc là, il va seconder Blanchard, qui a été laissé par Alfred Bardet, son employeur, à Harar, pour s'occuper d'une factory, d'un comptoir. Et très vite, Blanchard et Rimbaud se disent « il faut faire des photos ». Parce que les gens ici, on ne les connaît pas. Il faut faire des photos pour les envoyer en France. Et il espère que Alfred Bardet va rentrer de Lyon avec un appareil photo. Et Bardet, je crois que la photo ne l'intéresse pas beaucoup. Il ne revient pas avec un appareil photo. Et donc, il faudra attendre encore 3 ans avant que Rimbaud devienne photographe.
Et avant qu'il ne demande à se faire expédier un bagage photographique.
C'est-à-dire... Oui, ça c'est une chose aussi vraiment passionnante. Il a voulu se faire envoyer de Lyon un appareil photographique et le matériel, il appelle ça le bagage photographique, le terme est bon. Parce qu'en fait, on vendait à l'époque des malles ou bien des sacs en toile dans lesquels il y avait tout l'équipement nécessaire pour pouvoir faire de la photo. Alors, premier échec, il envoie l'argent, on ne lui envoie pas l'appareil. Et il demande à ce Dubard qu'il avait rencontré en août 80, qui est maintenant à la retraite, à Lyon, de lui rassembler ce matériel et de l'envoyer. Et c'est ce qui va se passer. L'appareil passe même par Maurice, semble-t-il, il y a eu une erreur d'acheminement, mais il arrive intact. Et Rimbaud d'Aden repart en avril, mars-avril 1883, pour Harar. C'est son second séjour, et cette fois-ci, il emporte avec lui, et il met ça sur les dromadaires, un matériel photographique, son bagage.
Alors, pourquoi ? Alors, parce que vous enquêtez sur cette période d'Arthur Rimbaud en Éthiopie, Hugues Fontaine, pour votre ouvrage Arthur Rimbaud, photographe. Vous avez bien sûr sa correspondance qui vous sert de boussole, mais à cette période-là, précisément, pourquoi Arthur Rimbaud veut devenir photographe ? Est-ce que, comme il le dit d'ailleurs à sa mère, à sa famille, parce que c'est lucratif et qu'il a besoin de vivre, ou est-ce qu'il a cette idée de s'exprimer, lui qui s'est exprimé avec les mots, avec les vers, de s'exprimer avec la photographie ?
Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il y ait une démarche artistique. Ces deux intentions sont l'une, d'ouvrir un studio photographique, et quand il est arrivé à Aden, il a vu le studio d'Edouard Bidault de Glatignier, un Français, un aristocrate qui a quitté la Mayenne et qui gagne de l'argent en faisant des portraits photographiques de ceux qui passent ou bien en vendant des photos des gens du coin. Son autre objectif, et là c'est peut-être un autre modèle qu'Edouard Bidault de Glatignier, c'est Georges Révoil, qui est un explorateur qui va beaucoup travailler en Somalie et qui lui aussi s'est équipé d'un appareil photo.
Pour donc, des projets ethnographiques.
Voilà, son deuxième projet, c'est de faire un livre, qui serait ce qu'on appellerait aujourd'hui un livre ethnographique, effectivement, illustré de cartes et de photos. Les photos seraient représentées sous forme de gravure, puisqu'on n'est pas encore en capacité d'imprimer des photos en 1883. Mais il a ce double objectif. Et je ne pense pas qu'il y ait un projet artistique. Je crois qu'effectivement, il veut gagner sa vie. Et il a cette idée qu'il pourrait très bien, au Shoah et à Harar, donc en Éthiopie, faire ce travail d'être un rédacteur et de rassembler des cartes et des photos.
Voilà, mais ça peut être une démarche artistique, hein, parce que ce qu'il dit...
Ça ne l'exclut pas, mais c'est pas son projet.
Ce qu'il dit, c'est qu'il souhaite photographier des choses curieuses.
Oui, c'est vrai. C'est le terme qu'il utilise. Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment voir que Rimbaud a totalement abandonné l'écriture sous forme littéraire. Il va poursuivre l'écriture. Hein. Il envoie à Bardet le rapport sur l'Ogadine, qui en fait est une mise en forme de notes de son compagnon Sotiro, un grec extraordinaire qui vit avec lui là-bas à Harar. Et plus tard, il écrira la lettre au directeur du Bosphore égyptien qui résume un peu tout son parcours éthiopien. Donc, on passe peut-être de la littérature à la correspondance et à l'écriture objective, scientifique. Et d'autre part, peut-être a-t-il renoncé définitivement à écrire sous forme littéraire, mais a-t-il renoncé à la poésie sous la forme d'une manière d'être au monde, d'une manière de vivre ? Rimbaud, c'est la liberté libre, c'est tout faire à toute vitesse, toujours être en avant, toujours fuir vers autre chose, vers l'ailleurs. Et là, curieusement, il va rester 11 années de sa vie entre Aden et Harar. Et je me demande si cette révolte du Rimbaud à 17 ans se poursuit pas par cet autre épisode de sa vie. Rimbaud est autre. Mais c'est le même Rimbaud, hein. c'est pas un Rimbaud double, c'est le Rimbaud qui est maintenant en Afrique Et dans les photos qu'il envoie, il y a ça d'assez extraordinaire. C'est que, je vous disais tout à l'heure, pour rappeler ma figure, donc pas pour montrer, hein, pour rappeler ma figure, et vous donner une idée des paysages d'ici. Il veut en fait montrer à sa mère et à sa sœur, ce sont des photographies à usage privé, les lieux où il vit aujourd'hui. À la fin du 19e, c'est le travail essentiel des photographes. On appelle ça des vues et des types, c'est-à-dire des paysages et les gens. Et au fond, Rimbaud fait les deux en une seule photo. Il se montre dans le paysage, et c'est parce qu'il se montre dans le paysage, et c'est à peine un tiers de la composition, qu'aussi on ne voit pas vraiment son visage. Son propos, c'est pas de refaire la photo de Carja, il n'est plus du tout dans cette logique-là.
Vous restez avec nous, Luc Fontaine, on parle d'Arthur Rimbaud, photographe ce matin.
Kan yelele bish Kukur riske rasish Siti naske bari Ene ne baymanish Alohye mithi Grundink ye honsh Wizerit Ethiopia Mintitab kyalish Fitzum Ethiopia wit Anama di mama Wizerit Ethiopia Konjit in a name bar Tramech wodefit Wichiba de babai Nika wimalin Anchin bakufwi miay
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et nous sommes en Éthiopie avec Arthur Rimbaud en compagnie de Luc Fontaine. Vous consacrez tout un livre à cette aventure d'Arthur Rimbaud avec la photo, la tentation de la photo, plutôt parce que pour aller très vite, ça n'aboutira pas. Hein. Il ne sera pas photographe, Arthur Rimbaud. Très vite, après quelques essais, il va vendre son matériel d'ailleurs.
Oui, assez vite. En fait, à Harare, à partir du mois de juin, il se met à pleuvoir. Et vraiment, quand il pleut, là-bas, c'est quelque chose. Et deux mots techniques, parce que j'ai abordé cette question de Rimbaud photographe aussi sous cet angle, il développait ses tirages à la lumière du soleil. On appelle ça du papier à noircissement direct. Et en fait, quand il pleut, il ne peut plus développer ses tirages. Il l'écrit d'ailleurs à Bardet quand il envoie quelques-unes de ses photos. Il dit « c'est du mauvais travail, je ferai mieux plus tard ». Et en fait, je pense que plus tard, il n'en fait plus des photos. Il arrête probablement très vite. Et sa mère lui demande un nouveau portrait, et à ce moment-là, il dira j'ai revendu mon appareil photo, mais sans perte. Et c'est une énigme, une des nombreuses...
Ouais, un relancement. Peut-être qu'il n'a pas été satisfait de ses premiers clichés.
C'est possible, un abandon en tout cas, oui.
Et on peut le comprendre, hein, elles ne sont pas techniquement ou artistiquement marquantes, les photos d'Arthur Rimbaud, Hugues Fontaine.
Pas complètement d'accord. Ouais. Les trois autoportraits sont de mauvaises épreuves. Bien composé, mais malheureusement mauvais résultat. En revanche, il y a deux autres images qu'on connaît bien. C'est le portrait de Sotiro, qui est un bon portrait. Et puis une autre image, le fabricant de Daboula. Les Daboula, c'est des sacs de cuir pour le transport du café. On voit un homme assis sur une peau, donc, et dans un atrium, en partie ouvert sur le plein air, en partie fermé sous un plafond. Pour faire une photo comme ça, il faut maîtriser très très bien la pose, c'est-à-dire régler son diaphragme. Il ne faut pas que ce soit trop brûlé dans les hautes lumières, il ne faut pas que ce soit noir dans les ombres. Cette photo-là, elle est techniquement tout à fait maîtrisée. En plus, les colonnes sont parfaitement verticales. Je pense que la photo fait la démonstration que Rimbaud maîtrisait la technique. D'ailleurs, il avait acheté un livre, comme beaucoup d'autres livres.
Pratique, je suppose. Hein.
Oui, c'est ça, un traité de photographie. Oui. Et il se fait envoyer aussi du matériel pour travailler pendant 2 ans. Et il écrit à sa mère très vite, je vais t'envoyer un chèque de 200 francs parce que j'ai déjà plus de plaques de verre. Donc, on peut présumer que pendant cette période mai-juin, il fait énormément de photos. Malheureusement, on n'en a que 7. Alors, où sont-elles ? Difficile de
il
savoir.
Il laisse tomber la photo Arthur Rimbaud parce qu'il n'est pas lui-même convaincu du résultat ou parce qu'il n'arrive pas à avoir une clientèle sur place.
Oui, je crois que vous avez raison. C'est certainement la raison pour laquelle il abandonne. Il s'est trompé. À Aden, il y avait beaucoup de gens qui passaient, donc qui se faisaient photographier ou qui achetaient des photos. À Harare, il a vite fait d'épuiser sa clientèle. Et puis, il passe à autre chose. Rimbaud n'a jamais cessé de passer à autre chose. Et peut-être que la pratique photo est un peu trop contraignante. Et il revend l'appareil, effectivement. Et donc, il passe à autre chose, qui est en fait son travail de négociant.
Alors là où il y a débat, Hugues Fontaine, c'est que vous dites que vous avez retrouvé 3 photos qui seraient des photos d'Arthur Rimbaud.
Oui. Si, vous avez raison de dire, c'est un débat. Je l'ai présenté...
Parce qu'elles ne sont pas authentifiées. Et comment peut-on authentifier d'ailleurs des clichés d'Arthur Rimbaud ?
C'est une des difficultés. Et j'ai délibérément présenté ça avec cette prudence. Quand on a fait l'exposition à Charleville-Mézières, nous avons fait venir de Vienne ces 3 tirages. Et nous les avons montrés. Alors vous pouvez imaginer, il y a eu tout de suite...
Alors que représentent ces 3 tirages et quelle est l'histoire de ces photos ?
Alors, elle représente 2 personnages, deux photographies représentent des personnages, une troisième photographie représente une citadelle. Parmi les personnages, il y a une photo sur laquelle je voudrais un tout petit peu insister, c'est un jeune garçon avec un bouclier, une lance, et qui se fait laver les pieds par un autre enfant plus jeune. Et quand on connaît un peu le coin, on a tôt fait de deviner qu'il s'agit d'un domestique, en fait d'un esclave et probablement un enfant venu des hautes terres. On est dans cette partie du monde à ce moment-là, en plein dans la traite des esclaves.
Hein. On est où exactement ?
On est donc en Éthiopie et cette photo-là, elle se trouve dans les monts Tchertcher, c'est-à-dire sur les hauts plateaux de l'Éthiopie, entre la capitale Ankober, la capitale du roi Ménélik, et Harare, où Rimbaud travaillait. Un enfant lave les pieds d'un jeune noble. Ça fait un peu penser aux premières poésies de Rimbaud, quand il s'intéresse aux enfants malheureux, les étrennes des orphelins. Bon, ces photos, comment auraient-elles été faites par Rimbaud ? Il se trouve que Rimbaud chemine depuis Ankober vers Harare avec un autre explorateur français, Jules Borély. Et Jules Borély a un appareil photographique. On connaît ses négatifs, ils sont conservés ici à Paris. En fait, moi je suis à Vienne en train de regarder les archives d'un ethnographe, géographe autrichien qui s'appelle Philipp Paulitschke. Et je consulte un registre qu'il a donné en même temps qu'une collection de 220 épreuves au musée d'histoire naturelle de Vienne en mars 1892. Je regarde attentivement ce registre et je tombe sur le nom de Rimbaud à 3 reprises face à 3 légendes. Alors, vous pouvez imaginer ma surprise. Enfin, j'étais pas venu au Weltmuseum de Vienne avec l'idée de chercher des choses autour de Rimbaud, je venais voir les archives de Philippe Pawlitzka. Et donc, je creuse un peu le sujet et je m'aperçois que Philippe Pawlitzka, qui est un ethnographe, un anthropologue, un savant, c'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, attribue à Arthur Rimbaud ces trois images. Or, il se trouve effectivement...
D'une manière explicite.
De façon tout à fait explicite.
Ce sont des photos d'Arthur Rimbaud.
Alors, ce qui se
c'est
passe...
C'est ça qui est écrit?
Non.
Très
exactement, ce qui est écrit. On a un inventaire qui fait une douzaine de pages. Et vous savez, un peu comme les livres de comptabilité du 19e, il y a des petits onglets. C'est-à-dire que quand vous tournez les pages, vous avez toujours un onglet de référence. Et il y a une colonne où c'est marqué « Name des collectors ». Le nom du, et c'est là où le terme importe beaucoup, « collectors », c'est-à-dire celui qui a collecté, celui qui a ramassé. Et donc, tout le début du registre, ce « name des collectors », le nom du collecteur, est parfaitement approprié puisque ce sont des objets. Et vous tournez les pages et là commence sa collection de 220 épreuves photographiques. Il dit que c'est la plus grande et la plus inédite et la plus extraordinaire collection de photographies sur la Corne de l'Afrique. Donc ce terme « name des collectors », qui était parfaitement adapté pour des objets, il pose problème quand il s'agit de photos. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a collectionné, rassemblé des épreuves photographiques, comme on a rassemblé des armes, etc. Ou bien est-ce que ça pourrait vouloir dire que c'est le nom de celui qui a fait la photo? Alors, il se trouve qu'il y a 19 noms de collecteurs d'épreuves photographiques, et moi je travaille sur ces explorateurs photographes depuis une quinzaine d'années. Ils sont tous, à l'exception de deux, des photographes avérés. Donc voilà un premier élément assez étonnant. D'autre part, le nom de Jules Borelli existe dans ce répertoire. Ce qui veut dire que si ces photos que je retrouve dans la collection de Borelli avaient été faites par Jules Borelli, pourquoi Pawlitzka aurait-il attribué trois de ces images à Rimbaud? Donc il y a, si vous voulez, dans cette découverte, une partie qui reste très ouverte, c'est de savoir dans quelles conditions exactement Pawlitzka a-t-il obtenu ces trois images et pourquoi les a-t-il attribuées à Rimbaud ?
Pour vous, Hugues Fontaine, ce sont des photos prises par Arthur Rimbaud ?
Moi, je veux bien le croire parce que, de fait, Rimbaud et Borelli marchent ensemble une vingtaine de jours pour aller de Ankober à Harar. C'est le moment où Rimbaud a vendu ses armes au roi Ménélique. Il s'est fait un peu rouler. Et Ménélique était un homme, un souverain très malin, lui a dit « Va te faire payer à Harar chez mon cousin Makanen » et il lui donne une traite. Donc Rimbaud part à Harar et Borelli profite de l'occasion pour faire le voyage avec Rimbaud. Et on sait parfaitement que Borelli a un matériel photo et je retrouve dans la collection de Borelli les négatifs en question. L'hypothèse que je fais aujourd'hui, c'est que Arthur Rimbaud chemine avec Borelli, qui est équipé d'un matériel photographique, et fait ces trois images.
Ou achète ces trois images parce qu'il aime ces photos. Enfin, c'est ouvert.
Hugues
Fontaine.
Oui, c'est ouvert. Et je ne dis rien d'autre que ça. C'est-à-dire, je ne dis pas ce sont trois photos inédites de Rimbaud. J'explique très précisément les conditions de la découverte de ces trois images et je dirais les raisons pour lesquelles je pense qu'il puisse en être l'auteur.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Arthur Rimbaud, photographe, Hugues Fontaine est édité chez Textuel. Et puis l'exposition continue au carré d'art de Nîmes, consacré à Rimbaud soleillé. C'est jusqu'au 25 avril. Merci beaucoup, Hugues Fontaine, d'être passé ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Intégrale des sonates pour piano de Beethoven, du 20 au 22 mars à l'Auditorium de Radio France. 10 pianistes, 32 sonates, pour redécouvrir le grand répertoire pour piano et fêter le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. avec François-Frédéric Guy, Maroussia Chantet, Ismaël Marguin, Natalia Milstein, Jean-Paul Gasparian, Rémi Genier, Célim Mazzari, Guillaume Bellhomme, Alexandre Kantorov et Tanguy de Villancourt. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
France Culture s'associe à la Journée internationale des droits des femmes, Perrine Kervran.
Des curetages punitifs à la clause de conscience, en passant par les avortements militants ou la révolution de la méthode Karman, si l'avortement est un droit des femmes, il est un droit qui dépend de la médecine et qui devient désormais parfois inaccessible.
Avortement, le pouvoir du médecin, LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Taufik, bonjour à tous. Établissements scolaires fermés, rassemblements encore plus limités en France. Face au coronavirus, le pays glisse progressivement vers des mesures plus restrictives. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'annonçait hier soir, vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal aussi, reportage au Mexique où des milliers de femmes se sont mobilisées hier, journée internationale des droits des femmes. Ce lundi, une grève massive est annoncée dans un pays où les féminicides sont très nombreux. Et puis nous irons aux Pays-Bas, à La Haye, où commence aujourd'hui le procès de trois Russes et d'un séparatiste ukrainien, près de 6 ans après le crash du vol MH17. La France reste au stade 2 dans la gestion de l'épidémie du coronavirus. À l'issue du Conseil de défense réuni hier soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, une série de mesures a tout de même été annoncée pour freiner la propagation de ce virus. Le ministre de la Santé a notamment interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes en France. Olivier Véran a également précisé pourquoi certains départements fermaient leurs établissements scolaires et d'autres non.
Le freinage s'organise donc de manière distincte selon les territoires et durera aussi longtemps qu'on constatera sa légitimité scientifique. L'application du freinage répond donc à deux principes, la différenciation et la proportionnalité. Chaque mesure de freinage doit être entreprise territoire par territoire au bon moment. C'est la différenciation. C'est par exemple, et à ce stade, la fermeture des crèches et des établissements scolaires dès qu'une zone devient à circulation virale activée. La proportionnalité, c'est garantir la continuité de la vie sociale, économique et démocratique de notre pays, tout en limitant les risques de diffusion du virus dans la population, en interdisant des rassemblements de population lorsqu'ils ne sont pas indispensables. À l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Je précise que les manifestations en feront partie, tout comme les concours par exemple, ou encore le recours aux transports en commun, qui sont des activités utiles à l'activité de la nation.
Reste donc à savoir encore ce matin si tous les spectacles et les rassemblements sportifs seront également annulés. Ce qui est certain, c'est que ce matin, plus de 300 000 élèves n'auront pas cours dans leur établissement, ce qui se situe dans l'Oise, dans le Haut-Rhin et à Ajaccio, en Corse du Sud. La France est le deuxième pays le plus affecté en Europe, avec 1100 personnes contaminées et 19 morts. Et en Europe, justement, loin devant, il y a toujours l'Italie, qui devient même le pays le plus touché derrière la Chine. Hier, le gouvernement a décidé de mettre en quarantaine une grande partie du nord du pays, de Milan, capitale économique, jusqu'à Venise, au lieu du tourisme mondial. 16 millions de personnes voient ainsi leurs déplacements limités. Tous les lieux publics sont fermés. Notons également un nouvel effondrement ce matin des marchés boursiers asiatiques, en particulier à Tokyo. Elles ont marché un peu partout dans le monde. En ce dimanche 8 mars, hier, des milliers de femmes défilaient à Paris, dans le calme et sous la pluie. Idem à Bruxelles ou à Madrid. Des rassemblements ont été réprimés en revanche au Pakistan ou au Kirghizistan. Des rassemblements massifs également hier au Chili et au Mexique. À Mexico d'ailleurs, des dizaines de milliers de femmes ont réclamé justice pour les victimes de violences machistes. Une mobilisation inédite dans le pays, provoquée en fait par la médiatisation récente de plusieurs cas de féminicides particulièrement barbares. Après les défilés hier, une grève massive est prévue aujourd'hui au Mexique, une journée sans femmes, pour protester aussi contre la passivité du gouvernement Emmanuel Stills.
Les Las muertes de nuestras mujeres en el país.
Le gouvernement n'en a rien à cirer des femmes qui sont tuées.
Ce sont les mots lancés par Malu Garcia Andrade, la sœur d'une femme assassinée, lors de la présentation d'un rapport sur les féminicides au Mexique. Et c'est ce même constat qui pousse les femmes mexicaines à faire grève ce lundi. Nicole Huete, une jeune féministe, explique que ce mouvement sans précédent veut secouer les institutions qui laissent les femmes se faire tuer.
Nous nous rendons compte à quel point les institutions laissent tomber les femmes et comment cela finit en féminicide. Par exemple, dans le cas d'une jeune femme assassinée récemment, elle avait dénoncé son compagnon pour violence. Mais en plus de cela, les photos de son corps ont été filtrées par la police et les médias les ont publiées. C'est un cumul d'irrégularités, même après sa mort. Alors les femmes s'indignent davantage et se mobilisent davantage.
La grève des femmes engrange une participation bien au-delà des cercles féministes habituels. Sur les réseaux sociaux, le mouvement s'annonce massif. Mais selon Lucia Lagunes, une journaliste féministe, ce n'est pas seulement le nombre de femmes qui soutiennent la grève qui indique son succès.
Au-delà de la participation, nous avons déjà réussi. Parce que tout le monde parle de la grève, du pourquoi de ce mouvement. Je crois qu'une partie du chemin est déjà parcourue, indépendamment du nombre de femmes qui n'iront pas travailler, ou des femmes qui se croiseront les bras à la maison, qui n'iront pas au supermarché. C'est une journée que les femmes consacreront à elles-mêmes.
D'ores et déjà, le Mexique est obligé d'imaginer ce que pourrait être un jour sans femmes.
C'était Emmanuel Stills depuis Mexico pour France Culture à l'aube d'une grève qui s'annonce donc très suivie. Recep Tayyip Erdogan sera cet après-midi à Bruxelles pour rencontrer les responsables de l'Union européenne. Ils doivent évoquer ensemble la crise migratoire et la guerre en Syrie. Le président turc demande en effet le soutien de l'Europe dans son conflit face au pouvoir syrien et il menace sans cela de laisser encore ses frontières ouvertes. Des centaines de migrants ont déjà pris le chemin de la Grèce et sont désormais coincés à la frontière. Partons maintenant aux Pays-Bas, à La Haye, où s'ouvre ce matin le procès attendu des responsables présumés de l'explosion du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Le 17 juillet 2014, parti d'Amsterdam et à destination de Kuala Lumpur, le Boeing a explosé dans l'est de l'Ukraine en plein conflit armé. Selon l'enquête internationale, l'appareil a été abattu par un missile d'origine russe tiré par des indépendantistes pro-russes. Les 298 personnes à son bord sont mortes. Elles étaient en majorité néerlandaises. Et 6 ans plus tard, leurs proches ont manifesté devant l'ambassade russe à La Haye, Antoine Moto.
Devant l'ambassade de Russie à La Haye, sous la pluie au milieu d'un parterre de crocus, Silène Fredericks déballe des chaises pliantes.
Nous sommes en train d'installer 298 chaises vides. Elles symbolisent le vide que nos proches ont laissé derrière eux. L'ambassade russe est devant nous. Nous demandons à la Russie de coopérer, d'arrêter de mentir.
Comme les dizaines de personnes présentes ici, le 17 juillet 2014, Silène a perdu des proches. Son fils Bryce, 23 ans, et sa petite amie Daisy, 20 ans. Ils se trouvaient à bord du MH17 reliant Amsterdam à Kuala Lumpur.
Le matin, je les ai serrés dans mes bras et leur ai dit de laisser leurs soucis ici. Quelques heures plus tard, ils ont disparu, assassinés au-dessus de l'Ukraine.
Selon l'enquête internationale, l'avion a été abattu dans l'est de l'Ukraine par un missile Buk de fabrication russe, tiré dans la région par une unité indépendantiste pro-russe. Moscou nie toute implication, mais pour Silène, il n'y a aucun doute.
Il y a beaucoup de responsables, mais tout en haut de l'échelle, il y a le président Poutine, il était au courant.
Elle espère beaucoup du procès qui s'ouvre ce lundi dans un tribunal ultra sécurisé près de l'aéroport de Schiphol. 3 ressortissants russes et 1 ukrainien y seront jugés par contumace.
C'était Antoine Moutot pour France Culture. Les soutiens du référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris ont encore quelques jours pour signer la pétition en ligne. Le délai expire ce jeudi à minuit. En 9 mois, près d'1 120 000 personnes ont signé cette pétition, loin donc des 4,7 millions de signatures nécessaires, c'est-à-dire 1/10 du corps électoral. Les soutiens de ce RIP, référendum d'initiative partagée, fustigent toujours le refus du gouvernement de lancer une campagne officielle avec des spots publicitaires par exemple. Ils fustigent également le peu d'espace médiatique donné selon eux à cette pétition. Jean-Marie Charon est sociologue des médias. Pour lui, c'était une expérience inédite pour faire fonctionner la démocratie participative, et cela reste donc expérimental.
On est face à un objet en matière de procédure qui est complètement étranger à nos modes de décision, en tout cas pour la France. Et du coup, le fait de s'interroger sur comment les médias peuvent jouer un rôle en termes de promotion de l'idée, de débat autour de l'idée, d'avoir effectivement des controverses qui puissent y être menées. Ça nous a amené à la fois de nous poser la question d'avoir un arbitre, un intervenant extérieur qui donne son point de vue, et en même temps, ben là, effectivement, à partir du moment où le sujet est moins d'actualité, c'est en train de sortir de la réflexion collective, quoi. Toutes ces procédures de consultation, de contestation de décisions qui ne rentrent pas dans nos cadres législatifs et de régulation traditionnelle, il faudrait qu'on y réfléchisse, qu'on s'empare d'ailleurs des expériences. Je pense que ça serait dommage, par exemple, que là, que ça débouche ou que ça ne débouche pas, mais qu'on n'ait pas une réflexion pour essayer d'identifier ce qui n'a pas fonctionné et en quoi, effectivement, cette procédure pourrait être davantage intégrée dans le travail des rédactions, notamment. Quoi.
Des propos recueillis par Sophie Delpont. La météo de ce jour avec des averses et de belles éclaircies un peu partout. 11 degrés ce matin à Bayonne, 8 à Paris et Lille, 9 degrés à Rennes et 12 près de la Méditerranée. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Il est 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. La presse écrite est menacée par l'expansion du numérique. Nous en avons largement parlé ces dernières années. Et Jacques, c'est le métier d'informer qui s'en trouve lui-même profondément modifié.
Et oui, dans un livre aux éditions, publié aux éditions de l'Aube sous le titre « La presse est un combat de rue », Éric Fotorino fait l'éloge du papier, clin d'œil à la formule de Bourdieu sur la sociologie. Le livre est aussi un plaidoyer pour la survie des kiosquiers qui assurent à la presse une présence dans l'espace public, pas seulement par nostalgie, mais parce que c'est là qu'aboutit à portée de main du citoyen le travail effectué en amont pour choisir, hiérarchiser, raconter, s'éloigner de l'actualité aveuglante pour voir l'événement. Même si tous les contenus du kiosque sont disponibles au fond de votre poche, sur votre smartphone, ils ne vous apostropheront jamais comme une manchette sortie brûlante des rotatives, résultat d'âpres débats et de combats d'idées. D'autant que ces contenus, sous leur forme numérique, se déversent dans un désordre sans nom, uniquement dicté par les algorithmes en fonction de votre historique de navigation, de vos requêtes, de vos likes, alors que la presse vous propose ce que vous ne cherchiez pas. Et pour comprendre l'époque dans toute sa complexité, nous offre ce que Gilles Deleuze appelait les bonnes pinces pour attraper le réel. L'ouvrage d'Éric Fotorino rassemble aussi des articles parus sur le même sujet dans l'hebdomadaire Le 1, dont il est directeur et cofondateur. Un chapitre est consacré aux dérives du spectacle et vise en particulier Internet et les réseaux sociaux. Dans un livre publié sous le titre éloquent « La civilisation du poisson rouge », Bruno Patino décrit le système destiné à capter notre attention, à la détourner en nous enfermant dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et notifications. Le nouveau « Le capitalisme numérique, écrit-il, est un produit et un producteur de l'accélération générale. Il tente d'augmenter la productivité du temps pour en extraire encore plus de valeur. Lui qui a dirigé le site du Monde.fr estime que l'effondrement de l'information est la conséquence première du régime économique choisi par les géants d'Internet. » Car c'est aussi en amont la pratique du journalisme qui s'en trouve profondément affectée, comme le montre Sophie Eustache dans un livre qui vient de paraître aux éditions Amsterdam sous le titre « Bâtonner, comment l'argent détruit le journalisme ». Bâtonner, c'est copier-coller une dépêche en la remaniant à la marge. Une pratique qui se répand dans les rédactions web du fait de l'intensification de la concurrence, entraînant une accélération de la production de contenu et une information usinée en série. C'est aussi le résultat final de la mainmise toujours plus intrusive des grands argentiers qui contrôlent la quasi-totalité des titres. Jusqu'à présent, il s'agissait pour eux de s'acheter de l'influence. Il leur faut désormais du retour sur investissement. L'économie d'Internet vient renforcer les logiques mercantiles déjà à l'œuvre dans les groupes de presse, souligne Sophie Eustache. L'objectif, conquérir la première place dans les référencements des moteurs de recherche, et c'est ainsi que Google est devenu le rédacteur en chef dans les services web, au prix d'une perte totale du sens de leur travail pour les petites mains qui torchent ces sous-articles destinés à faire du clic en accumulant les mots-clés, les liens hypertextes. Un rédacteur web consacre en moyenne 30 minutes à l'écriture d'un article, un journaliste du titre papier au moins une journée. Pour le lecteur à l'autre bout de la chaîne, c'est l'uniformisation totale du traitement de l'actualité et les sujets à l'international évacués, au Moyen-Orient par exemple, car ça n'intéresse personne. Le constat sur ce journalisme de marché est partagé et analysé de longue date par le site de l'Acrimed qui publie la revue Médiacritique. La dernière livraison est consacrée au traitement médiatique du mouvement contre la réforme des retraites. D'une manière générale, le petit périmètre du débat est balisé. La réforme est inéluctable. Les galères d'usagers écrasent la couverture des grèves, en particulier dans les JT, les journaux télé, devenus au choix succursales de bisons futés ou cellules de crise pour entreprises en péril. Et le précédent numéro de la revue posait la question qui nous occupe, où va le journalisme ? Réponse, le journalisme et ses conditions d'exercice ne cessent de se dégrader, la qualité de l'information avec, du fait notamment que l'enquête et le reportage ont majoritairement cédé la place à la mode du décryptage de l'actualité, dont la livraison express est assurée par des journalistes devenus communicants et des communicants devenus journalistes. Un article sur les géants du numérique dénonce leur influence néfaste dans la diffusion et la production de l'information. Les GAFAM œuvrent moins en faveur de la diversité des opinions et du pluralisme culturel et politique qu'au profit d'une marchandisation accrue de la culture, de l'information et des rapports sociaux. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, les conséquences de l'épidémie de coronavirus au Moyen-Orient.
Oui, c'est une région qui connaît déjà le coronavirus pour y avoir été confronté particulièrement en 2012-2013 avec le MERS coronavirus, lequel avait particulièrement touché l'Arabie Saoudite. Les systèmes de santé mis à l'épreuve il y a 8 ans devraient donc y être davantage préparés. On a beaucoup parlé de l'Iran, qui est à ce jour le pays le plus touché de la région avec 5000 cas et 154 décès, en tout cas pour ce qui est à ce jour annoncé et recensé. Le régime de Téhéran est très critiqué aujourd'hui pour avoir présenté le virus comme un nouveau complot américain plutôt que d'organiser le plus vite possible une campagne de prévention. Dans une région déjà instable, l'épidémie prend partout une tournure politique. Bonjour Jean-Pierre Filu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur des universités en histoire à Sciences Po. Vous animez sur le site du quotidien Le Monde, le blog Un si proche Orient, où vous avez publié hier un article titré « Le Moyen-Orient à l'heure du coronavirus ». Et vous faites, Jean-Pierre Filu, preuve d'une certaine ironie en désignant d'abord ce qui est peut-être le lieu le plus sûr au monde en cette période d'épidémie, la bande de Gaza, 2 millions d'habitants.
Oui, en effet, c'est l'humour grinçant des Palestiniennes et des Palestiniens qui se considérant en quarantaine depuis 14 ans, du fait du blocus de fait qui leur est imposé par Israël et par l'Égypte, eh bien, se sentent relativement protégés par la diffusion de l'épidémie.
D'autant qu'Israël, de son côté, a pris des mesures d'accès à son territoire très restrictives. C'est un des pays qui a, oui, avec l'Arabie Saoudite, qui ont pris les mesures les plus restrictives d'accès.
Oui, y compris contre les ressortissants français, Suisses, Autrichiens, Italiens, évidemment, de nombreux ressortissants asiatiques, tous ceux qui n'ont pas de permis de résidence, ce qui à ce jour a permis à Israël de limiter le nombre de cas à 25.
Et qu'il y a aussi, Israël, un système de détection qui est aujourd'hui performant ?
Oui, tout à fait, un système de détection performant. Et puis, le principe de précaution appliqué de manière assez active. Et là, ils viennent tout juste de fermer leurs frontières avec l'Égypte, où le premier mort a été signalé hier. C'est un touriste allemand qui séjournait donc dans la vallée du Nil.
Il y a, Jean-Pierre Filu, beaucoup de frontières relativement étanches en ce moment au Moyen-Orient. Est-ce que, d'une certaine façon, ça aide à contenir l'épidémie ?
Sans doute, sans doute. Et on voit que d'ailleurs, la première décision qui est prise, c'est toujours la fermeture de frontières ou la suspension de l'entrée de certaines catégories de ressortissants étrangers sur le territoire. Mais on voit aussi que c'est très vite très politique et on a une forme de polarisation anti-iranienne, voire entre chiites et sunnites qui se déclarent très vite.
Comment, pour revenir sur l'Iran dont vous parlez longuement dans votre article, on en est donc à 5000 cas, 154 décès déclarés. Comment en Iran en particulier le virus a pu circuler aussi vite, Jean-Pierre Filu ?
Il paraît acquis que c'est la ville de pèlerinage chiite de Qom, à 150 km au sud de Téhéran, qui a constitué le principal foyer de diffusion, le cluster, comme on dit maintenant dans la novlangue médicale. Et les mesures n'ont pas du tout été prises à temps, à la fois pour ne pas perturber ce qui est le plus important pèlerinage chiite en Iran. Et puis on a eu des élections législatives à la fin du mois dernier et le gouvernement ne voulait prendre aucune mesure qui aurait affecté la participation, qui a pourtant été historiquement basse, mais il a fallu avouer la réalité. On se rappelle tous de ces images proprement terrifiantes du secrétaire d'État à la santé qui s'éponge, qui tousse. C'est lui qui est chargé de la mise en œuvre de la prévention de l'épidémie et il va s'avérer infecté lui-même.
Et il n'est pas le seul. Au sein du régime islamique, plusieurs personnalités, plusieurs politiques sont atteints aujourd'hui par le virus.
Sont atteints et certains en sont même déjà morts. Hein. C'est le cas de deux parlementaires et d'un proche conseiller de l'ayatollah Khamenei, le maître véritable du pays depuis 1989.
Les prisons non plus ne sont plus épargnées par le virus qui nourrit les inquiétudes aussi. Vous le rappelez pour les deux chercheurs français, Fariba Adelka et Roland Marshall. Jean-Pierre Filu, apparemment ce serait d'Iran que viendraient les cas détectés aujourd'hui en Irak, ce qui n'est pas surprenant étant donné les liens entre les deux pays. L'Irak a quand même décidé de limiter les échanges un certain temps, c'est quelque chose qui est possible?
Ah oui, ils ont fermé la frontière, suspendu les pèlerinages chiites vers leur ville sainte de Najaf et Kerbala. Et effectivement, on voit comment en Irak, ces mesures contre l'Iran, eh bien, elles se déploient sur fond de contestation populaire depuis octobre dernier, de la mainmise de l'Iran sur l'Irak, comme si cette menace qui était déjà politique, militaire, eh bien, elle devenait aujourd'hui sanitaire dans une espèce de diabolisation du voisin iranien.
Et dans quelle mesure, dans d'autres pays qui ont vu les peuples se lever, je pense au Liban, je pense à l'Algérie, dans quelle mesure, là, que vous connaissez bien, vous y avez consacré un livre tout récemment, La Nouvelle Indépendance, Algérie, La Nouvelle Indépendance au Seuil, dans ces pays, dans quelle mesure l'apparition du coronavirus contribue aussi à nourrir la contestation sociale contre les pouvoirs en place?
Alors, au Liban, c'est très clair, hein, là aussi, il y a une dimension anti-iranienne assez prononcée, du fait que le nouveau gouvernement qui a été constitué sous la pression populaire est très lié au Hezbollah, donc à l'Iran indirectement. Donc on a une mobilisation citoyenne pour exiger la transparence, ce qui vaut évidemment aussi dans les affaires de santé. Quand en Algérie, on a vu l'humour prévaloir, là encore un humour grinçant, il y a une vingtaine de cas en Algérie, et donc les manifestants qui continuent tous les vendredis pour la population, tous les mardis pour la jeunesse et les étudiants de défiler depuis plus d'un an, bien, ils ont dit, nous on a déjà un virus, c'est le régime, et nous on veut se débarrasser de ce virus-là avant qu'on nous parle du coronavirus.
J'ai cru comprendre d'ailleurs que les manifestants ingurgitaient un peu d'huile d'olive pour se prémunir, pensent-ils, contre le virus, et puis sortent manifester quand même. Un éditorialiste a écrit un papier récemment pour dire qu'il suspendait lui sa participation aux marches. Il a été très vertement accueilli sur les réseaux sociaux. Le Irak ne se préoccupe pas du coronavirus. Globalement, les mouvements de contestation aujourd'hui ne s'en préoccupent pas. C'est pas leur... Et au Liban, on imagine aussi qu'on est surtout préoccupé par le premier défaut de paiement de l'histoire du pays. Donc est-ce que ce sont les régimes qui instrumentalisent le coronavirus, ou en tout cas qui politisent cette question plus que les populations?
C'est certain que les régimes désignent un ennemi, donc on le voit, ça peut être en Iran ce délire sur le coronavirus comme fruit d'un complot américain, voire israélien, mais ça peut être aussi en Arabie, l'Iran qui est désigné, et malheureusement avec quelques arguments, comme le principal foyer. L'Arabie a non seulement suspendu le pèlerinage à la Mecque et à Médine, mais vient tout juste de placer en quarantaine sa province orientale, à très forte majorité chiite, parce que c'est de là que les 11 cas aujourd'hui recensés dans le royaume ont été repérés et sans doute du fait de déplacements en Iran menés généralement de manière discrète parce que ce n'est pas bien vu des autorités saoudiennes.
Et l'Arabie saoudite, est-ce qu'elle a tiré des leçons, entre guillemets, de l'épidémie de MERS coronavirus de 2012-2013? Est-ce que le système de santé y est davantage préparé? Ce n'était pas le cas à l'époque, ça avait été beaucoup critiqué, notamment par l'OMS. Est-ce que les choses ont changé?
Ce qui est frappant, c'est la brutalité des décisions préventives prise par l'Arabie saoudite. Le contraste est frappant avec l'Iran qui ne veut pas fermer ni évidemment mettre en quarantaine la ville de pèlerinage de Qom, suspendre la Omra, c'est-à-dire le pèlerinage qu'on fait à la Mecque dans une moindre mesure à Médine en dehors du Hajj, les 5 jours de Hajj proprement dit qui se dérouleront à la fin juillet. C'est une mesure spectaculaire. On a eu ces photos de la grande mosquée totalement vide et là c'est seulement dans des conditions très restrictives que le lieu saint a été rouvert après une désinfection intense et les fidèles n'ont pas le droit de toucher la Kaaba, donc le lieu le plus saint de l'islam, et donc on a cette forme d'intervention étatique qui est tout à fait inédite dans un pays dont la légitimité fondamentale est celle de garder le gardien des deux lieux saints, donc de la Mecque et de Médine.
Et donc sur le système de santé, évidemment on ne peut pas comparer l'Algérie par exemple avec des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux encore qui montrent les conditions de mise en quarantaine des malades détectés positifs au virus dans un hôpital de Boufarik dans la grande banlieue d'Alger. On ne peut pas comparer l'Algérie à l'Arabie saoudite en l'occurrence, mais encore une fois, est-ce que des moyens ont été mis depuis l'épidémie de MERS coronavirus dans ces systèmes de santé, dans ces hôpitaux?
Cela paraît être le cas, mais surtout, c'est la fermeté des décisions de prévention qui impressionne et qui fait qu'à présent, en tout cas à ce stade, à ce jour, l'Arabie est relativement épargnée.
Pour conclure, Jean-Pierre Filu, vous dites que donc des pouvoirs en place politisent les mesures qu'ils prennent. Vous expliquez notamment que le ministre égyptien de la Santé s'est rendu en Chine, à qui il a fait un don d'1 million de masques de protection, tandis que le drapeau chinois a été symboliquement projeté sur plusieurs monuments du Caire et de la vallée du Nil. Quel est l'intérêt pour l'Égypte de faire ça?
D'abord montrer que l'Égypte est aux côtés de ses partenaires, voire de ses alliés. L'Égypte est très liée au régime autoritaire comme celui de la Chine, qu'elle présente comme une alternative à des Occidentaux qui seraient trop critiques. Et donc on a eu ce paradoxe d'une Égypte qui n'est quand même pas très prospère, livrant ce 1 million de masques à la Chine en acte de solidarité. Et effectivement, c'est aussi une façon de dire à la population, il ne se passe rien dans le pays, là encore, on peut s'interroger sur les vertus et les vices de la propagande d'État.
Merci beaucoup Jean-Pierre Filu d'avoir été avec nous ce matin. On peut lire votre article sur le blog que vous tenez sur le site du quotidien Le Monde, Ainsi Proche-Orient. Et puis on peut lire le livre que vous avez fait paraître très récemment au Seuil, Algérie, la nouvelle indépendance. Merci à vous.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Et ben voilà, vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon.
Alors désolé, première question tout de suite. Est-ce que vous vous êtes lavé les mains?
Et c'est ça l'intérêt du Covid. Maintenant, je peux vous demander, Julie, sans passer pour un type un peu bizarre, si vous vous êtes lavé les mains, lave-toi les mains, ne dis pas bonjour à la dame, jette-moi ce mouchoir. Nous sommes tous devenus des parents, je veux dire des parents avec des gens qui ne sont manifestement pas nos enfants. Les délires les plus hygiénistes ont désormais complètement droit de cité. Tout ce que vous aviez rêvé de faire, parce que vous trouvez vos contemporains sales, si vous avez envie de serrer la main avec des gants, pas faire la bise, attraper les boutons de porte avec des lingettes désinfectantes, et ben tout ceci est désormais absolument bien accepté. L'amour au temps du choléra, je sais pas, mais l'amour au temps du Covid, c'est remplacer l'alcool par de la solution hydroalcoolique, ne pas enlever son masque et éventuellement s'effleurer le coude. L'épidémie de coronavirus va faire sensiblement progresser la pathologie du lien, autrement dit, la capacité de se méfier de l'autre. Voilà la libération de la parole. parole, la libération de la parole en matière de névrose hygiéniste. Le Covid accompagne le retour en force d'Inya Semmelweis, médecin obstétricien hongrois du 19e siècle, lequel a beaucoup fait pour l'espèce humaine en obligeant ses semblables à se laver les mains. C'est ce que l'on doit à Semmelweis, l'éradication de la fièvre. Puerpéral, ce médecin avait découvert qu'il fallait se laver les mains après avoir procédé à une dissection de cadavre et avant de se livrer à un accouchement. Mais hélas, le destin de Semmelweis fut d'être un Galilée du savon, je veux dire qu'il fut persécuté pour ses conseils hygiénistes. Il mourut à l'asile pour avoir suggéré à ses contemporains de se laver les mains, et qui prit la plume quelques années plus tard pour défendre cet homme, Céline, Louis-Ferdinand Céline, romancier mais aussi médecin. Céline consacra sa thèse de médecine en 1924 à la vie et à l'œuvre de Semmelweis, qui évidemment n'arrange pas la mémoire de Semmelweis. Je m'en voudrais de franchir le point, Céline, avant 7h du matin. L'épidémie de coronavirus marque une nouvelle victoire posthume de Semmelweis, l'idée que le salut de l'espèce passe désormais non seulement par le savoir, mais aussi et surtout par le savon.